Bon, ben, merci, bonjour, merci d'être venu au Tech Days 2014. Pour moi, ça fait la huitième année consécutive. Huitième année à faire à peu près la même chose, troubleshooting, tuning, SQL. Cette année, avec un partenaire un peu différent, Yannick Mézuy. Vous connaissez peut-être, pour ceux qui l'auraient vu, il est PFE. Première field engineering, c'est-à-dire qu'il va essentiellement chez ses clients. Peut te présenter.
Ouais, donc je suis Yannick Mézuy, je suis PFE senior chez Microsoft. Donc là, je reconnais quelques-uns de mes clients ici. Donc l'idée, c'est qu'on est sur site avec vous, à vos côtés, pour améliorer l'expérience avec SQL Server. Donc ça part du design d'infrastructure jusqu'à l'analyse de performance. Voilà ce que je fais sur les grands comptes principalement.
Voilà, et moi, c'est Frédéric Pichot. Sur SQL depuis bientôt 20 ans et au support. Donc moi je suis côté dans les bureaux Microsoft. De temps en temps je sors pour prendre l'air, mais en général c'est plutôt Yannick. N'oubliez pas de donner votre avis, ça serait cool. Souvent ça a manqué. Moi je trouvais dans les autres années on voit pas assez de feedback sur ce qu'on peut améliorer déjà personnellement sur la session, sur le contenu. Est-ce que c'est trop high level? Est-ce que c'est trop profond? Etc. Donc donnez votre avis. Il y a des lots à gagner. C'est vraiment important pour nous. Donc on va parler un tout petit peu de méthodologie. Bon, ça c'est des slides. Ceux qui sont déjà venus à mes sessions les ont déjà vus, mais je préfère quand même les remettre. Pourquoi? Parce que l'analyse de performance c'est un perpétuel recommencement. À partir du moment où on veut améliorer les performances, on va améliorer quelque chose, on va le tester et on va avoir un autre problème. Quand c'est plus la mémoire, quand il y a assez de mémoire, ça peut être le CPU. Quand c'est pas le CPU, ça peut être les I/O. Quand c'est pas, etc., etc., les écritures. Et puis de toute façon, vos applications, elles bougent, vos données, elles bougent. On commence une table avec 1 million de clients et j'espère pour vous, au bout de 2 ans, vous en avez 10 millions. Eh bien, ce n'est pas les mêmes cardinalités, donc tout ça bouge. Donc régulièrement, il faut se poser la question, est-ce que j'ai une performance optimale? Est-ce que je peux l'améliorer? Est-ce que ça vaut le coup de l'améliorer? Parce que si je dépense beaucoup de l'argent pour améliorer, pour gagner 3% de performance, ça ne vaut peut-être pas le coup. Ça, c'est juste pour voir, on ne va pas le détailler maintenant, mais c'est pour vous donner une idée, ça c'est ce qu'on peut se poser comme question, qu'est-ce qu'il faut faire quand j'ai une requête longue? Ça, c'est une requête. C'est même pas la vue du serveur global. Avec un petit peu tout ce que je vais aller chercher. Les trois points majeurs de goulot d'étranglement pour une requête, ça peut être le CPU, les I/O, la mémoire, en général. D'accord? Mais comme ça, vous pourrez le lire à tête reposée pour bien dormir le soir. Et donc, je vais passer la parole à Yannick, qui va nous parler des outils de collecte
D'accord.
et ce qu'il fait sur site.
Donc pour appliquer la méthodologie dont parlait Frédéric Pichot tout à l'heure, même s'il n'est pas allé dans le détail, l'idée c'est que SQL Server arrive avec un certain nombre d'outils que nous allons parcourir. Donc les outils de collecte. Donc l'idée c'est de rassembler le maximum d'informations pour déterminer le bottleneck qu'on a. Donc là je parle d'outils pour avoir une vision globale sur les performances du serveur. Donc là je ne suis pas forcément sur une requête en particulier. Donc je vais avoir quelques leviers. Donc le premier étant évidemment les DMV, donc Dynamic Management Views des SQL Server, qui me permettent de connaître les attentes au niveau des SQL Server, au niveau du moteur. Qu'est-ce qui se passe en interne dans SQL Server? Donc on en a un certain nombre, plus d'une centaine. Vous avez le détail dans les slides, donc je vais passer assez vite. Mais globalement, ça me permet de savoir à quel endroit j'attends dans SQL Server. Est-ce que j'attends que des synchronisations de threads se fassent? Si j'ai une requête qui s'exécute avec un plan en parallèle, est-ce que j'attends qu'un I/O se termine? Est-ce que j'attends qu'un latch ou un lock se libère, etc. Donc avec les DMV, je vais avoir cette vision-là. Parmi la centaine, il y a deux qui servent au troubleshooting de performance, à savoir wait stats et waiting task. Avec ces informations, je suis capable de savoir où je perds du temps. D'accord? Ensuite, on va retrouver, je veux dire, le bon vieux performance monitor. Le bon vieux performance monitor qui va me permettre d'avoir la consommation des ressources système. Donc je vais commencer par la mémoire, ensuite les disques, ensuite la CPU. Je ne vous ai pas mis le réseau parce qu'actuellement on est quand même sur des serveurs avec des connectivités sur du giga Ethernet. Donc les problématiques réseau sont de plus en plus rares. Donc Frédéric peut le confirmer au niveau du support. Donc je vous ai mis les principaux ainsi que les compteurs de performance les plus importants au niveau des commentaires de la slide. Donc vous les aurez. Globalement, sous la mémoire, il faut regarder la mémoire qui reste sur le serveur, donc available m byte, regarder la gestion mémoire interne SQL Server, donc le buffer pool, tout ce qui va être page read, page write, page life expectancy. Donc je vous ai mis des détails avec des seuils qui vont être dans la présentation. Ensuite, sur la CPU, on va regarder si je suis en mode kernel, en mode utilisateur, etc. etc. Okay. Ensuite, on va retrouver, pour rentrer dans ce qui se passe vraiment dans SQL Server, l'outil SQL Trace, avec une interface graphique Low Profiler, sachant qu'il ne faut pas le lancer sur un serveur de production. Il est fait pour débugger, pour regarder un peu ce qui se passe sur ces requêtes, mais il peut faire tomber un serveur, donc vous ne l'exécutez pas directement sur un serveur. Si vous voulez le faire, passez par des procédures stockées, comme je le ferai dans la démo tout à l'heure. Donc on a un certain nombre d'événements. Derrière, on enchaîne avec les nouveautés de 2008-2008 R2, hein, avec à savoir les Extended Events, qui donnent une granularité plus fine sur les événements. On peut, avec les X-Events, regarder par exemple un page split, chose qu'on ne peut pas faire avec une trace SQL par défaut. D'accord ? Donc sur les Extended Events, on en avait à peu près 250 sur 2008-2008 R2. 2012, on était autour de 600. 2014, on doit être à 700-780. Donc on enrichit ce framework-là. Et pour vous, les DBA, les architectes, ben, faut partir sur le nouveau framework parce que finalement, le profiler devient deprecated. Donc il ne faut plus trop l'utiliser. Donc ensuite, on va retrouver des outils qui permettent de collecter automatiquement toutes les informations dont je parlais, à savoir SQL Diag, qui est inclus dans les binaires SQL Server. Donc j'installe SQL sur un serveur, j'ai automatiquement le SQL Diag.exe. Et cet outil-là va me permettre de faire justement à la fois la trace de la collecte perfmon, mais également SQL Trace. D'ailleurs, on retrouve également PerStatScript qui sont disponibles sur CodePlex, donc codeplex.com, qui est le site open source de Microsoft. Et là-dedans, on retrouve un certain nombre d'outils, dont les PerStat, qui sont finalement un jeu de fichiers de configuration pour piloter SQL Diag. Donc l'outil de collecte en lui-même, c'est SQL Diag, et PerStatScript qui représente des outils ou les fichiers de configuration. En gros, les événements sont préconfigurés. Je peux troubleshooter une situation de blocage. Ben, je détecte et je lance le bon script avec le bon fichier de configuration.
La partie importante là-dedans, c'est qu'on va collecter toutes les choses en même temps. Donc on a en même temps ce qui se passe côté SQL, ce qui se passe côté système, ce qui se passe côté disque, etc. Et non pas une image l'une à côté de l'autre.
Ok. Donc là, sur les PerStatScript, finalement, c'est les fichiers dont je parlais. Donc des fichiers de configuration et des fichiers de ligne de commande pour piloter la collecte. Ensuite, on va retrouver un outil qu'on utilise nous au support avec Frédéric Pichot. C'est le PSS Diag qui permet justement de générer un fichier qu'on va vous envoyer vous. Donc qui contient déjà tous les événements préconfigurés. Donc si vous ouvrez un case au support pour des problématiques de performance, on vous enverra un fichier qu'il faut exécuter sur votre environnement et qui contient les événements à collecter. Donc c'est le PSS Diag. Sachant que là, vous avez une version sur SQL, sur CodePlex, et on a une version interne, donc ça ne fait pas tout à fait la même chose. Mais l'idée, c'est qu'on peut vous fournir des exécutables pour la collecte chez vous. Ok. Donc, j'ai passé. Une fois qu'on a fait sa collecte, maintenant, on est capable d'analyser ces informations-là. Donc, on peut faire l'analyse manuelle, mais pour gagner en temps, on retrouve des outils qui permettent d'automatiser cette analyse-là. Donc, le premier d'entre eux, ça va être PAL, Performance Analysis of Log, qui va vous permettre justement d'analyser les compteurs perfmon. En gros, vous passez le répertoire de sortie, ou du moins le fichier BLG qui contient vos traces, vos compteurs de performance, vous le passez à l'outil, vous lui dites que je suis sur un serveur SQL, mais ça peut être un serveur Exchange, SharePoint, on a des fichiers de configuration pour tous les grands produits Microsoft SQL Server, tous les grands produits Microsoft, dont SQL Server. Donc vous lui passez ça, et derrière, il va vous sortir des graphes, donc qui permettent vraiment d'aller assez vite dans l'analyse. Il a déjà les graphes et les bons seuils, il va vous dire, bah, tiens, votre bottleneck par exemple, où c'est situé au niveau des disques, vos disques sont très lents. Donc ensuite, on va retrouver. Donc là, je vais parler de SQL Nexus directement. En fait, SQL Nexus, pareil, c'est un outil qui est disponible sur CodePlex qui va automatiser l'analyse des DMV, donc des weights au niveau SQL Server. Il va vous sortir également des requêtes les plus consommatrices sur votre serveur, les situations de blocage, de lock, etc. D'accord ? Et il va se reposer sur RML Utilities, c'est pour ça que je n'en parle pas là, pour l'analyse de la trace SQL et sortir des requêtes. Le type de rapport qu'on va retrouver finalement, ça va être les requêtes les plus consommatrices en mémoire, donc vous les avez là, en CPU, les requêtes les plus consommatrices en lecture ou écriture de pages logiques. Donc du coup, vous allez être capable d'identifier les requêtes, aller sur le détail de la requête, voir son plan d'exécution et aller dans la démarche troubleshooting, problème de cardinalité dont Frédéric parlera tout à l'heure.
Un point important là-dessus, c'est que lui, il va agréger les requêtes en séparant les paramètres. C'est-à-dire qu'il va prendre une requête, il ne va pas regarder le select where name égale Toto et where name égale Titi. Pour lui, il va considérer que c'est la même requête. Donc on va avoir une valeur moyenne de cette requête en fonction des paramètres qui sont passés. Mais on va pouvoir aussi voir des exceptions. C'est-à-dire, tiens, quand j'ai tel paramètre, là, j'ai une très mauvaise valeur. Problème de paramètres sniffing, de cardinalité, de update statistique. Ce qui est très difficile à voir juste comme ça. Donc on pourrait très bien dire, j'ai une requête qui tourne 1 million de fois et il y a une fois où elle est vraiment très mauvaise. Là, on va pouvoir l'identifier.
Tout à fait. Donc on va retrouver la notion de query hash qui est maintenant intégrée dans les plans d'exécution SQL Server. Donc le dernier outil dont je vais parler, ça va être le Extended Event Viewer. Finalement, avec justement le query hash et le query plan hash, on va être capable de faire des agrégations et donc sortir le même type de rapport qu'SQL Nexus. D'accord? Donc sur le viewer, comme on peut le voir, donc là j'avais une session X-Event, j'ai sauvegardé le résultat dans un fichier que je peux après analyser avec Management Studio, donc qui intègre le X-Event Viewer, et donc qui permet de faire des agrégations. Et donc je vais regrouper justement les requêtes dans cet exemple-là à partir du query hash. Donc je vais retrouver toutes les requêtes, les regrouper et voir les plus consommatrices de la même manière en I/O, écriture, lecture, en duration. Donc là, je choisis l'agrégation. En fonction de l'agrégation, je fais un grouping sur finalement le query hash et une agrégation de type somme sur la duration, si c'est la durée qui m'intéresse, les lectures, etc. Donc c'est assez facile à utiliser. Okay, donc on va passer à la démo. Mais avant, je rappelle juste qu'on fait chez Microsoft, hein, premier. Donc on fait des formations sur l'analyse de performance, où on va vraiment voir dans le détail les différents types de situations que vous rencontrez. Donc on a consolidé tout ça chez nous avec une base de connaissances et on fait des workshops dessus, dans nos locaux ou dans vos locaux.
C'est des durées de combien, les
Alors
formations?
les formations, c'est sur 4 jours, sur le format workshop, sur 4 jours et sur 3 jours pour tout ce qui est PTO clinique chez le client, sur sa situation de performance en particulier.
PTO, c'est?
Performance Tuning and Optimization.
Voilà. Je pense que tout le monde ne le sait pas.
Okay. Donc là, je vais passer à la démo. Donc dans la démo, je vais dérouler justement, je vais créer un workload qui crée une situation de performance sur un serveur. Ensuite, je vais utiliser les différents outils que j'ai mentionnés tout à l'heure et on verra le type de contention qu'on rencontre sur le serveur.
Oui.
Là, je suis bien sur le 3.
Bascule pas.
Bascule pas. Voilà, c'est bon.
Non.
Par contre, il y a encore. Bon, je sais pas ce qu'il fait là, mais.
Ah,
Alors.
attends, tu dois pouvoir le désélectionner là. Entrer.
Bon, on a un petit.
Non.
On dira bien.
Oui.
Bouge un tout petit peu.
Bon, on peut faire les deux en même temps, hein.
Ouais, ça va être difficile de voir quand même. Alors, hop, non, ça va être un peu difficile.
Alors, et après, il y a des gens qui pensent que SQL est un produit compliqué. Hein, trois boutons et on est paumé.
Alors.
Donc, si vous avez, juste pour revenir un petit peu sur les notions de première field engineer, à partir du moment où vous avez un compte premier, donc si vous n'en avez pas, je peux vous engager fortement à essayer d'en prendre un, c'est très intéressant d'avoir ces systèmes de formation, parce que cette formation, elle se passe chez vous, sur votre système. Donc ouais, avec les choses que vous avez l'habitude de voir, les outils que vous voyez d'habitude, les outils que vous avez à votre disposition. Ce n'est pas que de la théorie sur des exemples entre guillemets préfabriqués. Bon.
Je vais peut-être le... Ouais. Hop. Si je fais ça...
On a bien fait de commencer en avance. Hein.
J'ai l'effet démo, non? Pas encore. Ah bon, voilà. Non, même pas. Est-ce que tu débranches, je veux dire.
Tu veux que je débranche le mien?
Ouais. Ouais, comme ça, je laisserai que le mien...
Mais là, c'est les deux tiens. Hein. C'est le tien en deux tailles qui apparaît. Bon. Bah, si vous avez des questions,
c'est peut-être
on va inverser un peu le cours du jeu. Est-ce qu'il y a des premières questions sur... Oui. Est-ce que pour les partenaires, vous faites ce genre de formation aussi?
Alors, ce que je dirais, c'est qu'il faut voir si vous avez un TAM ou un point de contact chez Microsoft. Vous rentrez en contact avec lui et il vous orientera. Mais il m'est arrivé d'avoir en workshop des partenaires qui n'étaient pas forcément finales.
C'est faisable. Tout est faisable.
C'est faisable.
Ça dépend du prix.
Bien entendu.
Il y a d'autres questions? Profitez, profitez. Oui. Alors la question c'est, on peut analyser la mémoire et SQL occupe toute la mémoire qu'on lui donne, par défaut. Oui et non. Oui et non. Si SQL a besoin de mémoire et qu'il y en a de disponible, il va la prendre. Ouais. S'il n'a pas besoin de mémoire et qu'il y en a de disponible, il n'en prendra pas. Il la prendra pas. C'est souvent, il y a des gens qui nous appellent en disant, mais SQL il prend que 2 gigas. Bah oui, mais parce que vous avez besoin que de 2 gigas. Bon, donc tous les cas sont possibles. Maintenant, je peux avoir SQL qui a besoin de 60 gigas et que j'en ai 30 que 30 sur ma machine. Donc ça, il y a des compteurs qui nous permettent de le voir, de déterminer ce genre de choses. Ah ben, s'il a besoin de 9 gigas, il monte à 9 et que ça marche très bien, ben, tant mieux. Ça veut dire que c'est pas la peine d'acheter des barrettes mémoire demain. C'est tout. SQL, par son système de buffer, il va pouvoir réutiliser sa mémoire. S'il accède toujours les mêmes choses, il va se stabiliser à un moment dans son utilisation de mémoire, et puis c'est tout, entre guillemets. Maintenant, on va parler tout à l'heure, surtout demain, dans une autre session, du in-memory. Et là, le in-memory va faire qu'effectivement, on risque de consommer plus de mémoire. Mais ce qu'on peut analyser, en fin de compte, c'est... l'espace libre et l'espace occupé de mémoire sur le système globalement. Et on peut analyser dans SQL à quoi est utilisée la mémoire. Est-ce que c'est de la mémoire utilisée par le buffer pool? Est-ce que c'est de la mémoire utilisée par des plans stockés? Est-ce qu'on réutilise bien les plans pour éviter la consommation de mémoire? Voilà, tout ce genre de choses.
Ok, donc on a,
et c'est reparti.
On a l'écran, donc c'est reparti. Donc je vais créer une situation sur ce serveur-là. Donc c'est SQL Server 2014 en CTP2. Donc là, je lance une situation de blocage sur le serveur. Donc il se passe des choses, les utilisateurs appellent le service concerné. SQL visiblement ne fonctionne pas très bien. Donc l'idée, quelle est la panoplie d'outils à disposition des BA ou administrateurs, architectes, SQL Server. Donc là, l'idée, c'est que je vais commencer par faire une collecte avec SQL Diag, dont on parlait tout à l'heure. Donc j'ai un fichier de configuration préconfiguré qui lance la bonne commande et qui va me faire une collecte. D'accord. Donc je lance ma collecte. Il va me capturer à la fois les événements SQL Trace, mais également une trace Perfmon et des DMV tous les X temps. Donc, il va me collecter les DMV. Donc, je lance la trace pendant quelques temps. Donc on va voir des choses arriver côté SQL. Ok. Okay, donc je vais le laisser tourner un tout petit peu, sachant que je ne vais pas aller au bout du processus, parce que pour l'effet de présentation, je vais vous sortir les résultats directement. Voilà. Donc là, il se passe des choses sur SQL, donc visiblement, je n'arrive même plus à me connecter. Okay. Pendant ce temps, ma collègue continue. Hein. Donc là, c'est les perf.stat.script que vous retrouvez sur CodePlex. D'accord. Sur les perf.stat.script, finalement, ce que je disais tout à l'heure, c'est que vous avez l'utilitaire installé de base dans SQL Server. Donc sqldirect.exe. Ensuite, dans les perfstats, vous retrouvez des lignes de commande à exécuter, ainsi que des fichiers de configuration. Donc vous téléchargez ça sur CodePlex, vous n'avez besoin de rien modifier. Il va vous faire la collecte des événements pertinents pour l'analyse de performance générale sur un serveur. D'accord ? Pardon ? Alors, sur un serveur de prod, en général, ce que je fais ou ce qu'on fait, c'est de regarder la charge. D'accord. Donc, je peux commencer par regarder avec Perfmon assez rapidement les batch requests par seconde. On considère sur SQL qu'autour de 100, on commence à avoir une charge importante. Et là, je ne lancerai pas le detailed, mais je ferai une trace plutôt allégée. D'accord. Je ne lancerai pas celui-là, perftrace, detailed, qui va collecter les requêtes, les sous-requêtes. Donc dans une procédure stockée, par exemple, on peut savoir quelle exécution était moins performante. Donc je n'irai pas jusqu'à ce niveau-là. C'est vision générale, ensuite on cible. D'accord. Ok, donc ici, je vais arrêter la situation. Ce que vous devrez voir là, en principe, c'est des weights qui augmentent. Et sauf que mon visualiseur, il n'a plus la connexion. D'accord. Donc il a du mal à faire des refreshs, donc je suis vraiment sur un serveur qui est un tout petit peu bloqué, il se passe des choses. Donc du coup, je fais ma collecte, je l'arrête. D'accord. Donc il m'arrête tous mes collecteurs, SQL Trace, Perfmon et mes DMV. Donc une fois qu'il va finir la collecte, je vais analyser tout ça avec PAL, donc Performance Analysis of Log, puisque finalement en sortie, d'accord. Donc une fois que je l'ai exécuté, en sortie, je vais retrouver des compteurs de performance Windows. Ensuite, je vais retrouver la trace SQL Profiler, d'accord, et des DMV. Okay. Donc, je fais tout ça, je lance dans PAL, et PAL va me sortir des rapports. Donc là, je vais aller assez vite par rapport au timing. Donc, PAL va me sortir un rapport, d'accord. Typiquement, je peux aller voir la mémoire. Donc, en consommation mémoire sur mon serveur, voilà, j'ai 2 Go disponibles. Donc mon problème ne va pas forcément être la mémoire. D'accord. Donc je n'ai pas besoin de beaucoup plus de mémoire pour travailler. D'accord. Donc de la même manière, donc je vais regarder mémoire, disque. Donc là sur des disques, donc, il a déjà des seuils prédéfinis. Hein. On considère que sur les disques, à partir de 15 millisecondes, il faut commencer à regarder un tout petit peu. SQL commence à être sensible à ça. Au-delà de 25 millisecondes, ben ça on le ressent côté applicatif clairement. Donc c'est des seuils indicatifs, vous pouvez les adapter à votre workload. D'accord. Donc là, je ne vais pas passer sur tous les compteurs, mais vous avez des courbes qui vous permettent justement de faire l'analyse de performance. Donc là, j'ai fini avec la partie analyse des compteurs Windows. Maintenant, je vais utiliser un autre outil qui s'appelle SQL Nexus et qui va me permettre d'analyser la partie DMV et Trace SQL Profiler. D'accord. Donc en général, vous lancez l'import. Donc là, je ne vais pas le faire là. Vous lancez l'import, il analyse tout ça. Il vous sort des courbes tout seul comme un grand. D'accord. Donc c'est un gain de temps assez impressionnant en analyse de performance. Donc dans la situation que j'ai créée, l'analyse des compteurs des DMV me donne ça comme bottleneck. Donc bottleneck analysis. J'ai du page latch. D'accord. Donc en regardant, je passe 98% de temps en page latch. Donc quand je vais voir le détail, ça correspond typiquement à des accès concurrents sur une même zone de page. Et donc quand je regarde, donc page latch up, sur la ressource 2, 1, 3, donc 2 étant la term DB. Donc visiblement, je dois être dans une situation de contention en term DB. D'accord. De la même manière, une fois que j'ai fait la partie bottleneck analysis, je peux regarder les requêtes les plus consommatrices. Donc là, typiquement les blocages. D'accord. Donc je retrouve un certain nombre de blocages, je ne vais pas aller dans le détail. Je vais revenir rapidement à la partie retrace. Et là, il va me sortir les requêtes les plus consommatrices pendant le workload que j'ai exécuté.
Et quand on entend requêtes les plus consommatrices, ce n'est pas obligatoirement la bonne grosse requête qui prend toutes les ressources. Ça peut être une requête petite, mais qui est lancée 1 million de fois en quelques minutes et qui va en fin de compte cumuler, prendre beaucoup de ressources. Donc c'est pour ça qu'on a un temps, par exemple, CPU cumulé. Si j'ai fait ma trace un quart d'heure et que j'ai une requête qui, à elle toute seule, prend 10 minutes de CPU, ça veut dire qu'elle ne laisse pas le temps aux autres. Donc il faut se poser la question, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal, est-ce qu'on peut l'améliorer? Donc il ne faut pas chercher obligatoirement la requête qui écroule tout. Ça peut être des requêtes beaucoup plus petites qui écroulent tout parce qu'elles sont lancées très souvent.
Donc là, avec cette analyse, j'arrive à identifier assez rapidement la requête la plus consommatrice. Il se trouve que c'est la même, donc en CPU, en duration, et en lecture-écriture. En principe, c'est la une. Voilà, hop. Donc là, en dessous du tableau, je retrouve ma requête, numéro 1. Alors. Donc là, je ne la retrouve pas là
Si, tu l'as, tu as
directement.
une exec
C'est là.
generate wait stat.
Ok, hop. Voilà, donc là, après, on peut aller voir la requête. Là, je n'ai pas récupéré les plans d'exécution, mais je peux configurer ma trace pour m'amener également les plans d'exécution. Donc, j'ai identifié la plus grosse requête, ainsi que son plan, et derrière, procéder à la suite d'analyse. Ouais. Donc là, c'était une démo sous les outils. Vous les avez à disposition, ils sont sur CodePlex, et on peut les utiliser. Ils sont gratuits, donc il n'y a pas de
Faites-le.
gratuit inclus. Donc faites-le. Ça permet vraiment d'aller assez vite dans l'analyse de performance. Donc je vais repasser la main à Frédéric, parce que j'ai pris un peu de temps sur la partie performance et outils.
On va essayer de basculer.
Alors donc là je reviens
Moi, c'est le
sur.
3.
T'es sur le 3. 3. Voilà.
C'est bon. C'est passé du premier coup. Comme ça, les gens du terrain, ils sont balèzes. Donc, on va parler un peu des statistiques. Qu'est-ce que c'est les statistiques? L'optimiseur du SQL, c'est celui qui va déterminer le plan pour accéder aux données. C'est bien de stocker des informations, le plus intéressant, c'est de les retrouver. Moi, quand on me range mes chaussettes qui ne sont pas dans le bon tiroir, j'arrive pas à les trouver. D'accord? Donc le plus important, c'est pouvoir retrouver les données rapidement. L'optimiseur, il se base sur quoi? Il se base sur des statistiques. Parce qu'il va faire une estimation, il va calculer un plan, et au bout d'un certain temps, il va dire, je prends ce plan-là et je l'exécute. Donc il ne peut pas se permettre d'exécuter plusieurs plans en même temps pour savoir lequel est le mieux. Donc il y a une page de statistiques par index et on peut en créer sur les colonnes. Donc ça, c'est des redites. Je pense que ceux qui sont un peu habitués à SQL Server le savent. Par contre, ce qui est important à savoir, c'est que ces statistiques peuvent être mises à jour automatiquement en fonction du taux de modification de la table ou des colonnes. Il n'y a pas de statistiques sur les variables de type table, mais on peut en avoir sur les tables temporaires. Si on crée des grosses tables temporaires, on peut créer des statistiques sur ces tables temporaires. On peut y créer des index aussi. Depuis 2008, R2 SP2 et 2012 SP1, il y a une DMV qui s'appelle DMDB Stat Properties, qui donne plein d'informations sur les statistiques. Le problème, c'est que les statistiques, avant, on n'avait qu'une seule commande, DBCC show statistiques, qui permettait d'aller voir ces statistiques. Sauf qu'on ne peut pas récupérer le résultat dans un rowset. Alors que là, c'est une DMV, donc je vais pouvoir récupérer le résultat dans un rowset. Donc je vais pouvoir automatiser des jobs qui vont récupérer le résultat de cette DMV. En particulier, la date de la dernière mise à jour de la statistique. Combien elle a parcouru d'enregistrements? Combien d'enregistrements ont été modifiés depuis la dernière mise à jour? Etc., etc. Donc l'auto-update statistique, c'est un problème bien connu. C'est qu'il est fixé à la mise à jour automatique se fait quand on modifie 20% de la cardinalité de la table, plus 500. Donc ce 500 étant un peu petit, quand on commence à parler maintenant de tables qui font des millions ou des dizaines de millions d'enregistrements. Donc on a un gros problème là-dessus, c'est qu'en fin de compte, les statistiques peuvent être mises à jour très très tard. Or, les statistiques, c'est important parce que c'est le seul moyen pour l'optimiseur de repérer le bon plan pour rechercher des données. D'accord? Donc il y a eu une première modification qui a été faite, qui a été d'inclure un traceflag qui permet en fin de compte de modifier l'algorithme d'auto-update de statistiques. Et ce traceflag va travailler maintenant sur la racine carrée de 1000 fois la cardinalité des modifications. Qu'est-ce que ça donne? Ben voilà le trend. En bleu, on voit l'auto-update statistique en fonction de ma cardinalité ici. Et on voit qu'en fin de compte, il faut que je modifie énormément d'enregistrements pour arriver à mettre à jour, parce que ma table est très grande. En faisant l'autre, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je diminue. On voit quand j'arrive à 1 million de... C'est combien, non? 1, 2, 3, 100 millions, 1 milliard d'enregistrements, la mise à jour est proche de 0%. D'accord? Donc, on va avoir une mise à jour des statistiques d'auto-update beaucoup plus fréquente. Donc, c'est le trace flag 2371. Donc, il est valable à partir de ces versions-là jusque 2012, 2014, etc. Pour les statistiques filtrées, bon, je vous ai mis un peu la formule. Faut savoir que les statistiques, qu'est-ce que c'est qu'une statistique filtrée? C'est qu'on va filtrer suivant un prédicat. On va dire, je filtre sur la colonne A, mais je peux très bien mettre mon prédicat sur la colonne B. Donc, attention, il règle en fonction de sur quoi on filtre et non pas sur le prédicat. Et en plus, il modifie par 0,5 parce qu'il estime qu'on ne récupère pas tous les enregistrements puisqu'on filtre. Il y a deux trace flags, 2389 et 2390, qui sont là normalement pour résoudre ce qu'on appelle les problèmes de branding colonne. Les branding colonnes, on en reparlera un petit peu plus tard, c'est des colonnes qui sont toujours ascendantes. Si je stocke toujours avec la date d'aujourd'hui, cette colonne où je stocke la date d'aujourd'hui, ben elle ne fait que monter. D'accord? Donc mes mises à jour de statistiques, elles sont pas bonnes parce que tant que j'ai pas mis à jour assez d'enregistrements, je connais pas la date qui a été rentrée. Typiquement. Donc le branding colonne, c'est une notion où il va un petit peu déterminer en disant je sais que cette colonne, elle fonctionne sous un mode ascendant. C'est-à-dire que chaque fois que j'insère des données, je prends des valeurs plus hautes. Les statistiques incrémentales. Alors ça, c'est une nouveauté du SQL 14, 2014. L'objectif, c'est une mise à jour plus rapide des statistiques. Le projet, ça s'appelait Fast Statistics. L'idée, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, sur une table partitionnée, vous avez une page de statistiques pour toute la table. Là, maintenant, qu'est-ce qu'on crée? Eh bien, on crée une page de statistiques pour chaque partition. Quel est le gros intérêt? Eh bien, le gros intérêt, c'est que mon ratio de mise à jour de statistiques, je vais pouvoir le gérer par partition. Donc maintenant, c'est quand je mets à jour 20% de la partition. Si j'ai une table qui est partitionnée sur tous les jours de l'année, par exemple, j'ai 365 partitions. Donc, pour arriver à mettre à jour cette table-là, c'est énorme. Alors que là, juste quand je change ma date d'aujourd'hui, je vais pouvoir modifier la statistique de la partition de la date d'aujourd'hui, qui va entraîner la modification peut-être de la statistique de la participation du mois, etc., etc., etc. D'accord? On va voir comment c'est organisé. L'objectif, attention, c'est fast statistique, c'est-à-dire une mise à jour rapide des statistiques. Ce n'est pas encore prendre compte au niveau de l'optimiseur des valeurs des tables intermédiaires. L'idée, c'est d'avoir que ma page statistique de la table soit le plus à jour possible, sans être obligé de modifier l'ensemble de la table. Comment c'est organisé? Eh bien, une table avec 4 partitions est organisée comme ça. 4 pages de statistiques, le merge de 2 pages statistiques en une seule page et le merge jusqu'au niveau final. Quand on rajoute une partition, voilà ce qui se passe. On va splitter mon arbre et c'est toujours des merges 2 à 2. Alors on comprend bien une chose, c'est qu'on met à jour plus rapidement nos statistiques. C'est bien. Par contre, comme on fait du merge, on risque de perdre un peu de précision dans la statistique. Mais d'un autre côté, on y gagne parce qu'elle est mise à jour plus souvent. Puisque je ne vais plus faire un sampling. Je ne vais plus faire un sampling à partir de ma page A, je dirais, qui est le haut, et qui me donne obligatoirement des vraies valeurs. Là, j'ai une opération qui est de merge. Les samplings, eux, ils se font au niveau 1, 2, 3, 4 et 5. D'accord? Mais c'est vraiment très efficace. SQL 2014 introduit un nouveau truc, qui est le New Cardinality Estimation, ou CE, et non pas comité d'entreprise. Qu'est-ce que c'est que la base de Query Optimization? La base de Query Optimization, je l'ai dit, c'est déterminer le plan pour accéder aux données. Pour déterminer ce plan, on va faire une estimation de cardinalité. Cette estimation est basée sur nos pages de statistiques. D'accord? Donc on a un certain nombre de règles pour faire ça. Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les systèmes SQL vont faire face à des workloads très très différents. OLTP, Dataware, etc. Et qu'il faut avoir une performance qui soit prédictible. Prédictible, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je sais que quand j'augmente mon nombre d'enregistrements, je sais comment mes performances vont évoluer. Donc tout dépend de la cardinality estimation. Historiquement, on travaille sur une cardinality estimation qui a été designée pour SQL 6.0, revue un peu pour 7.0. Donc vous voyez depuis combien de temps ça dure. Et on a rajouté des briques là-dedans, on a corrigé des bugs là-dedans, mais on ne l'a jamais revu complètement. On va parler un petit peu d'un outil qui s'appelle Picasso. Picasso, c'est quoi? C'est un outil qui a été fait par le Database System Lab, Indian Institute of Science. Et c'est un outil qui va permettre de visualiser la pertinence d'un optimiseur. Cet outil, vous pouvez le télécharger sur le web, d'accord? Et il est instrumenté pour SQL, pour DB2, pour Oracle, pour Sybase, etc. Qu'est-ce qu'il nous montre cet outil? Il nous montre un graphe qui, en fonction de la cardinalité de deux tables, puisque là je suis sur une jointure entre deux tables, entre la cardinalité de deux tables, l'évolution du coût des requêtes que je fais. Qu'est-ce que je vois? J'ai une très jolie montagne, c'est un peu les Alpes, avec des vallées, des canyons, etc. Mais ça, c'est pas bon. Mathématiquement, c'est pas bon du tout. Parce que ça veut dire que quand j'augmente ma cardinalité, tout d'un coup, j'ai des coûts qui tombent. Alors que je devrais avoir des coûts qui augmentent, puisque j'augmente ma cardinalité. Donc le but, c'est d'obtenir le schéma qui est à droite. Le schéma qui est à droite, qui est une progression plus normale. J'augmente ma cardinalité, mes coûts d'estimation augmentent. Là, c'est normal. Et en fin de compte, d'où ça vient, ça? Ben, ça vient du modèle mathématique qui a été utilisé dans SQL. Donc SQL 14 implémente un nouveau CE, et ce but de ce nouveau CE, c'est d'être plus efficace dans l'estimation. Plus efficace globalement. On ne va pas chercher à être meilleur pour chaque requête, on va surtout d'être prédictible et plus efficace globalement. Les problèmes de cardinalité, bah, globalement, en général, à part des problèmes de performance du système, parce que vous n'avez plus assez de mémoire, plus assez d'IO, etc., et encore, plus assez de mémoire, plus assez d'IO, ça peut être aussi des problèmes de cardinalité. Quand ça arrive chez nous, au support, c'est souvent, on a un mauvais choix de plan. On a un mauvais choix de plan, pourquoi? Parce qu'on a une mauvaise estimation de cardinalité. Si dans une jointure, on estime que ça va ramener 10 rows, on décide de faire un merge join, malheureusement, ce n'est pas 10 rows que ça ramène dans la réalité, c'est 1 million. Comprenez que mon merge join, là, il va exploser. D'accord? Mais au départ, j'avais estimé. Donc, en suivant l'estimation, j'avais fait le bon choix. Donc, ce cardinality estimation, c'est vraiment important. Comment on peut le détecter? On peut le détecter avec cette statistique profile on et exécuter une requête dans Management Studio. Et qu'est-ce qu'on va regarder? Eh bien, on va regarder deux colonnes, rose et execute. Ça, c'est la réalité, comparé à estimate rose et estimate execution. Ça, c'est l'estimation. Donc là, je vois que j'ai une petite variation. C'est peut-être pas énorme, mais c'est peut-être une petite variation sur une grosse requête qui va me faire basculer d'un loop join à hash join. Donc, qui peut devenir importante. Comment je peux le déterminer aussi? En regardant l'actual execution plan. Actual execution plan, pareil, j'ai un estimated number of execution, estimate number of execution, et un actual number of rows avec un estimated number of rows. C'est les mêmes, hein, ça vient du même truc, c'est juste deux façons différentes d'aller les voir. Un troisième point, c'est les X-Events dont a parlé Yannick. Il y a un X-Event particulier qui s'appelle Inaccurate Cardinality Estimate. Quand est-ce que ce X-Event ressort? Eh bien, il ressort justement quand le moteur s'aperçoit qu'il y a une variation trop grosse entre la cardinalité qui était estimée et l'exécution réelle. Que va faire le nouveau CE? Ben, le nouveau CE, on va modifier le modèle mathématique. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail du modèle mathématique parce que ça fait très très mal à la tête. Il y a trois gros points à noter, qui sont trois hypothèses qui sont prises de façon globale maintenant. Hypothèse d'uniformité. Dans chaque palier d'histogramme, les valeurs distinctes sont équidistantes et ont la même fréquence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que entre la valeur 100 et la valeur 200, j'estime que toutes les valeurs présentes, il y en a autant du même nombre et elles sont toutes séparées par le même nombre. C'est-à-dire qu'entre la valeur 100 et la valeur 200, je sais que j'ai 10 rows, et bien j'estime à ce moment-là que j'ai un enregistrement tous les 100, 110, 120, 130, etc. C'est ça l'équidistance, l'uniformité. L'hypothèse de confinement, pour moi, c'est une des plus importantes pour corriger beaucoup de problèmes dans SQL au jour d'aujourd'hui. C'est on estime que les données existent. Dans 99,99% des cas, quand vous faites une jointure, quand vous cherchez un enregistrement, vous partez sur un enregistrement qui existe, vous voulez le retrouver. Vous allez me dire, oui, il y a quelques cas où je vais me poser la question, if existe, etc. Mais en réalité, par rapport au nombre de fois où vous allez chercher quelque chose qui existe, c'est peanuts. Or avant, qu'est-ce qui se passait? On prenait la valeur 50, elle n'était pas dans mon histogramme. Donc on regardait le plan et on voyait row estimated 1. Alors d'abord c'était un faux 1, en fin de compte c'était un 0. Mais il mettait 1, c'est pour éviter d'avoir après un divide by 0 error. D'accord? Mais en fin de compte, il estimait qu'il allait retrouver 0 row. Or maintenant, c'est le contraire. Maintenant, on estime que cette valeur, elle existe, même si on ne la voit pas dans l'histogramme. Et à quelle fréquence? Eh bien sur la fréquence moyenne de la table. C'est ça qui va être utilisé. Qu'est-ce que ça va résoudre comme problème? Eh bien notre problème de date. Puisque je n'ai pas la date d'aujourd'hui. Je n'ai pas modifié assez d'enregistrement pour l'avoir. Mais maintenant, je pars de l'hypothèse que je l'ai. Et qu'il y en a autant que les dates des autres jours, en moyenne. Et on va voir que ça a une très très grosse importance. Hypothèse d'indépendance, ça c'est peut-être la plus complexe. C'est pour parler de la corrélation des colonnes entre elles. Si j'ai une colonne pays et une colonne continent, ben France et Europe, c'est vachement corrélé. Je vais rarement trouver France dans Asie. D'accord ? Donc c'est ça ce qu'on appelle la corrélation des colonnes. Maintenant il y a deux types de corrélation. Comment je travaille la corrélation entre deux tables distinctes, jointure entre deux tables distinctes, ou la corrélation à l'intérieur d'une même table, c'est-à-dire deux colonnes, le continent et le pays, à l'intérieur de ma table. À l'intérieur de ma table, on va considérer que j'ai une forte corrélation. D'accord ? Sur deux tables distinctes, on va mettre sur hypothèse que j'ai une faible corrélation. Parce que sinon, si j'avais une forte corrélation, il y a de fortes chances que je n'aurais fait qu'une seule table. Quelques exemples. Bon, là, je les ai mis rapidement, on va y passer très très vite. L'histoire du 50, on part de la notion que la valeur existe. Idem jointure entre deux tables, on va considérer que les valeurs qui sont dans la table inner sont dans la table outer. D'accord ? Les prédicats de type range, là on va jouer sur l'uniformité. Sélectivité et quid join, on va travailler sur l'indépendance de chaque notion. Problème de la clé ascendante, on l'a déjà évoqué. Les données sont ascendantes, elles ne sont pas connues dans l'histogramme tant que je n'ai pas fait de mise à jour de statistiques. Mais maintenant, comme je pars de l'hypothèse que les données existent, ça va résoudre fortement mes problèmes. Qu'est-ce qui a été fait? D'abord, ça a été testé avec tous les benchmarks, TPCC, D, H, G, E, F, K, Z, ce que vous voulez. Ça a été testé avec des workloads clients. Et en fin de compte, ils ont fait du réglage, comme avant les garagistes savaient le faire. C'est-à-dire ils ont monté le moteur, ils ont démarré le moteur, ils ont entendu le cliquetis, et puis ils ont tourné les tournevis doucement. Et en tournant les tournevis doucement, qu'est-ce qu'ils ont vu? Sur l'histoire de la variation de modèle, les problèmes de sélectivité, ce qu'ils en appellent l'exponential back-off. Quand vous avez une sélectivité de prédicat avec pas mal de colonnes, P0, P1, P2, P3, etc., on range dans cet ordre-là. L'indépendance fait que c'est P0 par P1, par P2, par P3, par P4. Ça, c'était le modèle mathématique. Mais les réglages fins au petit tournevis, on dit, on sera meilleur si on fait P0 par P1 à la puissance 1,5, par P2 à la puissance 1 quart, par P3 à la puissance 1 huitième. Voilà. Mais ça, c'est du réglage fin. Et ce réglage fin, eh bien, il va continuer. Le modèle, il est en place, mais maintenant, il va y avoir une évolution plus facile. Deux trace flags, un trace flag qui force l'ancien CE, un trace flag qui force le nouveau CE. Pourquoi ? Eh bien, vous pouvez aller les yeux fermés sur SQL 14. Si vous avez des problèmes, vous pouvez fonctionner avec l'ancien CE. Si vous n'avez pas de problème, vous pouvez fonctionner avec le nouveau CE. Ou vous pouvez dire, je force au départ, je fonctionne avec l'ancien CE, et puis au fur et à mesure, je teste mes requêtes importantes, je les teste sur le nouveau CE, et je peux basculer dessus. Par défaut, c'est le nouveau CE. Ça peut être mis, un trace flag au niveau du serveur, mais ça peut être mis au niveau d'une requête, avec le query option. D'accord ? Donc on peut régler, si vraiment, à un moment, ça merde, entre guillemets, vous pouvez régler avec les deux query estimation, les deux modèles existent dans le moteur. L'architecture, ça c'était le gros truc. Comme je vous l'ai dit, ça a été designé au départ, ils ont tout mis là-dedans. Et après il a fallu coller, il a fallu réparer, il a fallu mettre du scotch, etc., rajouter des notions, et tout ça, ça fait un code qui est pas regardable. Donc maintenant, profitons du cas qu'on écrive un nouveau CE pour réécrire le code complètement. Et le code d'une façon beaucoup plus gérable. Donc deux étapes, une étape planning et une étape exécution. L'étape planning va déterminer un cardinality calculator. On va voir ce que c'est. Cardinality calculator, c'est en fin de compte, le but c'est quelle est la méthode pour estimer la cardinalité. Et puis l'exécution. C'est l'exécution du calculator, ce n'est pas l'exécution de la requête. C'est ce qui va déterminer notre estimation. Bénéfice, eh bien on a un code propre, meilleure supportabilité, meilleure maintenance, et on peut y mettre beaucoup plus de choses. Donc on va être juste dans le temps. On va basculer sur un petit peu de démo. Donc là, j'ai une base, je vais la créer vite fait. Partition fonction, table partitionnée, je mets des dates. C'est exactement l'illustration de mon problème de date de tout à l'heure. D'accord ? Donc je mets des dates, voilà, j'exécute ça. Okay. Donc ça veut dire que là, je vais être positionné jusqu'à une certaine date. Donc j'ai un plan que je peux voir ici. Si j'exécute, c'est un plan avec un hashmatch, ça fonctionne très bien. Maintenant, je vais insérer des nouvelles dates d'aujourd'hui, d'accord ? J'exécute. Ah, pourquoi il est bien long comme ça ? Il est un peu long. Bon, pour tout vous dire, ma machine a crashé vendredi. Donc j'ai tout réinstallé dans le week-end, même pas dans le week-end, hier. Bon, c'est pas grave, on va l'arrêter. Et j'espère qu'il en a fait quelques-unes. Maintenant, si on regarde les plans, ici. Hop. On voit que j'ai un loop join. J'ai un loop join, je pars dans le mauvais plan. Ça, c'était le comportement ancien CE. Pourquoi je sais que c'est l'ancien CE ? Parce que j'ai mis option, query trace, pour forcer l'ancien CE. Donc je peux forcer l'ancien CE par cette voie-là. D'accord ? Maintenant, si je regarde le nouveau plan, j'ai bien un hashmatch sans avoir rien fait. Donc mes hypothèses mathématiques ont fait que j'ai résolu mon problème de date. Ça c'est bon, vous aurez les exemples, mais c'est une petite mise à jour. Donc là, je peux voir mes différentes pages statistiques, d'accord. Mais comme j'ai créé une table partitionnée, donc maintenant j'ai incrémental statistique, d'accord. Donc je vais faire une mise à jour de 900 enregistrements. 900 enregistrements, ça va me provoquer la mise à jour de la statistique d'une partition. mais ça pourrait ne pas provo- ça ne provoquera pas la mise à jour de la statistique globale. Par contre, comme j'ai modifié une partition et que j'ai eu des merges de statistiques, je vais effectivement quand même modifier ma statistique globale, mais je ne vais pas faire un sampling sur toute ma table.
On enlève le plan. Là.
Voilà. Donc, hop. C'est bon. On exécute. Voilà. Et on voit que j'ai, en fin de compte, ma date qui a changé. J'ai bien eu mes updates. Bon, les valeurs, je vois bien mes 900 enregistrements qui ont été positionnés. Le 900, c'est le select, enfin start date, d'accord ? J'ai bien mis 900 enregistrements et j'ai enregistré ça. Un petit point. Maintenant, je peux aller voir, ça c'est une petite requête sympa, pour aller voir les différentes partitions de ma table, d'accord ? Je peux aller voir comme ça. Et là, qu'est-ce que je vais voir ? Je vais voir toutes mes différentes partitions avec une information qui s'appelle Node ID. Ce Node ID, en fin de compte, ça va être l'identifiant de ma page de statistiques par partition. Pourquoi j'en ai plus ? Parce que je les merge deux à deux. Vous rappelez le schéma ? D'accord ? Et maintenant, j'ai mon DBC showstat habituel, mais j'ai un trace flag qui permet de faire un DBC showstat du node ID que je veux aller voir. Donc je peux aller voir le node ID d'une spécifique, d'une partition spécifique. Ils n'ont pas voulu l'implémenter dans un DBCC statistique global pour ne pas casser des scripts qui seraient utilisés au jour d'aujourd'hui. Mais normalement, vous n'avez pas besoin d'aller le voir, cette page. Mais pour nous, pour le support, ou en cas de debugging, ça peut être utile de l'avoir. Alors je vous avais mis un script sur le new CE, on n'aura pas le temps de tout jouer, mais truc important, vous voyez, il y avait la notion de X-Event, et on pouvait aller voir générer un X-Event, voilà. Et qu'est-ce qu'on a dans ce genre de X-Event là ? On a des Query Optimize Estimate Cardinality. C'est quoi ? C'est les différents plans qui vont être les différents calculateurs. D'accord ? On a ici un champ qui s'appelle calculator name. Donc pour chaque nœud de ma requête, on va avoir le calculator name qui va être utilisé. Et on va pouvoir dire maintenant, ce que je ne pouvais pas dire avant, j'ai une mauvaise estimation de cardinalité dans le calculator name machin, etc., etc. Pour nous, pour le dev, ils peuvent aller fixer juste ce calculator sans tout casser. On voit tout de suite que c'est beaucoup plus maintenable. Et ça, on peut le faire avec le plan. Si je reviens sur le plan, ici. En fin de compte, j'avais utilisé cette requête-là comme démo. Oui, d'accord. Voilà. Et je prends par exemple ici un merge join. Je regarde ses propriétés. Je dois avoir. Ah oui, mais il faut que j'exécute, pardon. Excusez-moi. Il faut que j'exécute. Voilà. Donc je regarde le plan. Et j'ai ici. Donc, une valeur de plan ID. Est-ce qu'il y est quelque part ? En fin de compte, bon, je vais la retrouver. Cette valeur de plan ID, elle correspond à ici. Cette valeur qui est là, qui est le stat collection ID. Donc on va pouvoir retrouver pour chaque nœud, chaque partie du plan, comment a été calculée son estimation. Voilà. Donc on a essayé de faire rapide. C'est vrai qu'ils ont réduit le temps des sessions, donc c'est un petit peu. Juste. Et ben, j'espère que ça vous a plu. Amusez-vous bien avec le nouveau CE. Franchement, il est fiable. Un petit point important à garder à l'esprit, c'est que ce nouveau CE, son but, c'est d'améliorer la qualité globale. Donc, vous pouvez trouver des requêtes qui sont moins bonnes. Ok ? Ça, c'est malheureusement, c'est comme ça. Un petit point sur les... les ressources que vous avez au niveau des Tech Days, d'accord ? N'oubliez pas de penser à l'estimation. Vous avez juste à... c'est ça, il faut smarter le logo quelque part, et puis vous faites l'estimation. S'il vous plaît, faites-le. Moi, ça me renseigne, parce que cette session, je la donne d'année en année, et j'ai besoin de savoir qu'est-ce que vous voulez voir maintenant. Hein. Je commence à être un peu à court d'idées.
Voilà. S'il y a quelques questions, peut-être.
Quelques questions rapides ? Oui ? Non.
Non.
Le nouveau CE, il est dans SQL 2014. And next version. Oui ? Bah, merci, au revoir à tous ceux qui s'en vont. bonne continuation.